Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
What?
La guitare électrique se suffit à elle-même. Elle amplifie chaque petite nuance émise par les cordes qu'on n'entendrait sans doute pas sur une guitare acoustique. Elle met en relief la richesse de tons et les aigus. On peut tenir la note. On peut presque lui donner l'allure d'une voix. On peut jouer des accords très doux, des sons comme éthérés, et soudain, avec un simple petit coup de switch, faire s'effondrer un immeuble.
Ce que vous venez d'entendre est l'introduction d'une série documentaire diffusée sur la chaîne franco-allemande Arte en février 2017 et désormais disponible en DVD. Il s'agit de Soundbreaking, la grande aventure de la musique enregistrée, une collection de 6 films qui retrace l'histoire de la culture populaire à travers un siècle de production sonore et d'avancées technologiques. L'un des auteurs et scénaristes de cette épopée audiovisuelle est parmi nous. Romain Pierry, soyez le bienvenu.
Merci.
Tout d'abord, racontez-nous la genèse de cette collection de films qui est une production d'envergure internationale.
Oui, c'est une coproduction franco-américaine, ou plutôt américano-française, pour être tout à fait précis, puisque à l'origine de cette série, il y a monsieur George Martin, tout simplement, qui en a eu en grande partie l'idée et qui a évidemment aidé à réunir le casting qui est assez impressionnant d'artistes et de producteurs. Et donc, il y a une première version américaine qui a été diffusée sur PBS aux États-Unis en fin d'année dernière, qui elle compte 8 épisodes. Et nous, pour Arte, donc, nous avons fait une version alternative. C'est pas la même version. On peut regarder les deux, je crois, avec un égal plaisir. Enfin, j'espère, en tout cas. Évidemment, il y a des passages qui sont identiques, mais voilà. Dans notre version, il y a des intervenants francophones, des artistes, des musiciens, des producteurs, voilà, français, qui nous racontent des chapitres que nos amis américains avaient peut-être eu tendance à mettre de côté ou à juger moins importants. Donc voilà, nous, on a à la fois une version plus courte, puisqu'on n'a donc que 6 heures, même si c'est considérable, évidemment, mais en même temps, on couvre peut-être un tout petit peu plus de ce siècle d'enregistrement, puisqu'on parle de chapitres qui se sont déroulés en France, en Allemagne, en Italie, voilà, qui, de notre point de vue européen, méritaient d'être racontés.
Pourquoi vouloir raconter l'histoire de la musique populaire à travers le prisme de l'évolution technique et artistique ?
Ben déjà, parce que ça n'a pas été souvent fait, à ma connaissance, en documentaire, peut-être sur tel ou tel point précis, mais avec cette ampleur-là, moi, j'ai pas d'exemple de ça. Ensuite, parce que c'est un moyen de voir l'histoire populaire, parce qu'il faut donc juste préciser que, évidemment, là, on parle d'enregistrement de la musique populaire, puisque à part un petit chapitre sur Caruso, voilà, il n'y a pas de musique classique du tout. Il y a assez peu de jazz, trop peu à mon goût, mais bon, voilà. mais donc, on parle de musique populaire. On l'a assez peu raconté du point de vue du studio d'enregistrement, principalement. On a assez peu raconté, surtout en France, ce que c'est qu'un producteur de musique. Et du coup, ça donne une nouvelle vision des choses. C'est avant tout une histoire technologique, technique, mais aussi évidemment artistique. C'est là-dessus que repose la série, c'est comment une innovation technique donne lieu presque immédiatement souvent à une innovation esthétique. Mais c'est aussi bien sûr une histoire politique, une histoire sociologique. Voilà. Néanmoins, voilà, il ne fallait pas retomber dans du documentaire classique, entre guillemets, c'est-à-dire raconter voilà, la musique populaire d'un point de vue purement sociologique, purement historique. Voilà, c'est avant tout du point de vue de la technologie. Et encore une fois, voilà, à notre connaissance, il y avait pas, ça n'avait jamais été fait, en tout cas avec cette ampleur-là, ça c'est sûr.
Diriez-vous que les bluesmen noirs américains ont finalement été les premiers à bénéficier du progrès technologique et à populariser l'idée que le volume sonore d'une guitare amplifiée était une vraie révolution?
Oui, ceci étant dit, il y a un personnage très important dans cette histoire qui est Charlie Christian, qui est le premier guitare héros de l'histoire de la musique populaire. Et il se trouve que c'est pas un rocker, c'est même pas un bluesman, c'est un jazzman. C'est lui le premier qui maîtrise la technique de la guitare électrique et qui favorise du coup l'émancipation de la guitare, puisque jusqu'à présent, jusqu'à la fin des années 30, la guitare dans les big bands, voilà, on l'entend à peine, c'est les cuivres qui dominent et elle est là pour jouer quelques accords, etc. Mais avec lui, avec la possibilité évidemment technique d'amplifier le son de la guitare, tout d'un coup la guitare se fait entendre comme elle ne s'est jamais fait entendre et du coup on n'a plus tellement besoin des cuivres. Donc oui, les bluesmen, bien sûr, me dit Waters, bien sûr, évidemment, voilà, tout ce pan de l'histoire qu'on connaît, voilà, la migration des musiciens du sud vers le nord et Chicago, et bien sûr, tout ça est raconté dans le premier épisode, mais un peu avant, il y a, voilà, faut se souvenir de ce personnage qui a eu une carrière météorique, hein, quand même, puisqu'il est mort à 26 ans, Charlie Christian, mais il est central de l'histoire de la musique enregistrée. Hein.
Vous avez de surcroît des commentateurs de choix pour cette série de documentaires, George Benson, Jeff Beck, Ben Harper, Questlove, le leader des Roots, Steve Van Zandt, le partenaire de Bruce Springsteen, mais aussi des auteurs, musicologues, producteurs comme Eddie Kramer, qui travailla notamment sur l'album Axis Bold as Love de Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix est le plus grand guitariste que j'ai jamais vu, entendu ou eu le privilège d'enregistrer. Pendant environ deux semaines, j'ai mené des expériences sur le phasing, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Je lui dis, Jimmy, viens, j'aimerais faire écouter quelque chose. Il arrive et je lui passe la partie centrale de Axis, Bold as Love. Quand intervient la batterie, ça fait... Et le phasing commence. Il se prend alors la tête avec les mains. Oh mon Dieu, comment tu fais ça? J'en ai rêvé. Je veux qu'on mette ça partout, mec.
I want that on everything, man.
Alors tous les jours, on essayait de nouvelles choses. Compression lourde, égalisation étrange, bande jouée à l'envers.
Extrait de la série Sound Breaking, c'était le producteur Eddie Kramer qui évoquait son travail de studio avec le légendaire Jimi Hendrix. Romain Pierry, en tant qu'auteur et scénariste de cette collection de documentaires, est-ce que vous avez eu des difficultés à thématiser chaque film, car tout se recoupe. La magie du studio répond à la profession de producteur, la fée électricité renvoie à trouver sa voix devant un micro, la génération sample est totalement liée au fichier MP3, etc., etc.
Non, ça n'a pas été la partie la plus difficile, parce que il faut partir de toute façon, encore une fois, de la machine, de la technique, de la technologie. Donc l'électricité, l'arrivée de l'électricité pour le premier épisode, la technique du multipiste pour le second, etc. Si on suit ce fil-là, évidemment, bien sûr, il y a des choses qui se recoupent et c'est logique. Mais je crois qu'on a plutôt réussi à pas trop se marcher sur les pieds d'un épisode à l'autre. Et du coup, voilà, non, c'était pas la grande difficulté.
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir appris des choses sur l'aventure de la musique enregistrée en travaillant sur cette série documentaire ?
Ah oui, complètement. Là, je serais vraiment malhonnête là si je répondais non. Oui, bien sûr, on a beau être mélomane, plus ou moins averti, etc. Bien sûr, on découvre évidemment des choses. Heureusement, c'est un des plaisirs aussi de ce métier-là. Et puis, c'est surtout le plaisir par anticipation de le faire découvrir au public. Je le dis sans prendre de risque, puisque c'est un des retours qu'on a eu de la part du public. C'est par exemple sur un artiste comme Stevie Wonder, beaucoup de gens, à commencer par moi, ne savait pas ou avait oublié peut-être voilà, qu'il y avait avec lui en studio deux pionniers de la musique électronique et du synthétiseur qui ont joué un rôle fondamental dans l'élaboration des 4-5 albums les plus importants de Stevie Wonder et du coup les albums qui permettent au synthétiseur d'entrer de manière définitive dans la soul, dans la pop. Voilà, donc ça, peut-être que je l'avais lu, parce que voilà, quand on s'intéresse à tout ça, on tombe forcément sur ce genre d'infos. Mais là, voilà, je l'ai redécouvert, on va dire, et beaucoup de gens l'ont découvert en voyant la série. Oui.
Vous devriez faire de la radio, Romain Pierry, puisque j'allais justement vous parler de Robert Margouleff et Malcolm Cécile, que vous venez d'évoquer, et qui parlent de leur collaboration avec l'immense Stevie Wonder.
On a enregistré plus de 250 chansons. Quand il a finalement fallu faire un album, on s'est dit, prenons celle-ci, prenons celle-là, et en gros, pendant 5 ans, pas d'erreur possible. Chaque disque qu'on a fait s'est changé en nom. Grammys, disques de platine, disques d'or. Stevie Wonder a su exploiter toutes les innovations et faire grâce à elle une musique simple à comprendre. C'est suffisamment funky pour plaire aux fans de soul, aux fans de rock, aux mélomanes en général. Et ça, c'est dur à faire.
The Sunshine of My Life, Stevie Wonder en 1972 sur l'album Talking Book, produit par Robert Margouleff et Malcolm Cécile, qui commentent donc dans Soundbreaking la genèse de ce disque légendaire. Romain Pierry, lequel de ces six films vous a le plus apporté? En d'autres mots, lequel préférez-vous?
Oh, alors ça c'est compliqué comme question. Lequel je préfère? Je ne suis même pas sûr d'avoir un préféré, honnêtement. Peut-être que j'ai une tendresse particulière pour le dernier. Pourquoi? Parce que je pense que là, on est vraiment au cœur du réacteur, du concept de Soundbreaking, c'est-à-dire que la musique enregistrée, qu'on soit spécialiste ou pas, c'est d'abord par là qu'elle passe et qu'elle touche le public. C'est l'objet, que ce soit le disque, que ce soit la cassette.
Ce sont les supports.
Je pense qu'on est vraiment là au cœur du truc, parce qu'on est à la fois sur de la technique, sur de l'artistique, mais aussi sur de l'émotionnel pur, sur de la nostalgie aussi, sur voilà, c'est l'épisode dont les gens nous parlent le plus, c'est peut-être celui-ci pour lequel j'ai une tendresse particulière, mais honnêtement c'est difficile, qu'ils soient même tous, déjà ils sont tous différents. Si les gens sont venus et si les gens achètent le DVD, c'est parce que quel que soit leur âge, quel que soit leur goût, parce que tous les genres sont visités, ça s'adresse à toutes les générations, voilà. Ouais. Le 33 tours, la cassette, etc., ça nous renvoie immédiatement à un chapitre de notre vie, à une époque particulière, un souvenir, voilà, c'est peut-être un peu bateau à dire, mais c'est par ce côté-là, à mon avis, que la musique enregistrée touche le grand nombre, le plus grand nombre.
Est-ce que, pour la diffusion sur Arte, vous avez dû adapter vos scénarios à un public européen? Est-ce que vous avez fait appel, par exemple, à des témoignages complémentaires?
Oui. complètement. Dans la version initiale américaine, il n'y a aucun intervenant francophone. De toute façon, la série repose vraiment sur... voilà, c'est l'histoire de la musique enregistrée racontée par ceux-là même qui l'ont faite et qui continuent de la faire, donc les artistes et les producteurs. Après, comme le public va le constater avec le DVD, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de voix off sur cette série. Et donc, évidemment, à certains moments, il faut quand même un expert, un musicologue, un historien ou un spécialiste de la musique populaire qui déjà comble une lacune, dit quelque chose que les artistes ou les producteurs ne disent pas, mais surtout, effectivement, soit davantage dans l'analyse, pour répondre à votre question. Du côté américain, en tout cas, oui, c'est pas toujours leur priorité. Bon, voilà, là, clairement, en tant qu'Européen, en tant que Français, en tant qu'auteur d'une série qui est destinée à une chaîne franco-allemande, et Arte, de toute façon, avait des demandes à ce niveau-là, voilà, il faut qu'on soit plus didactique, plus pédagogique, plus analytique, sans tomber, évidemment, dans un propos universitaire ou quelque chose, c'est pas du tout la question, mais c'est en partie une série de films historiques. Il faut expliquer, il faut mettre à jour une chronologie, etc., etc. Donc oui, il y a besoin d'experts. Il y a beaucoup, beaucoup d'experts hein, côté américain, mais on a tenu à nos experts et on les trouve formidables. Donc voilà, on est ravis.
Les archives ne se suffisent pas à elles-mêmes pour narrer l'aventure de la musique enregistrée.
Non. Il faut de toute façon les entourer d'un propos, les mettre en perspective. Les archives, on peut un peu leur faire dire ce qu'on veut. Donc non, pour le coup, voilà. Alors elles sont extrêmement nombreuses et elles sont en général assez exceptionnelles dans la série. C'est aussi une grande partie du plaisir de la série. Mais non, il faut forcément les encadrer d'interventions des artistes, des producteurs, bien sûr.
Je vous pose cette question parce qu'en voyant le guitariste Les Paul expliquer ce qu'est le multipiste, c'est limpide.
Alors là, pour le coup, c'est limpide, effectivement, mais c'est pas toujours le cas. Mais celle-ci est excessivement limpide. Elle est formidable. Moi, je l'avais jamais vue.
Moi non plus.
Voilà. Bon, là, on comprend tout. On comprend ce que c'est que cette technique. On comprend aussi que ce monsieur était un sacré génie. Hein. C'est un authentique génie, je pense qu'on peut le dire, qui a eu un rôle fondamental, non seulement parce qu'il est le père du multipiste, mais aussi et les guitaristes amateurs qui nous écoutent le savent très bien. Voilà, Les Paul, c'est aussi une marque de guitare puisque c'est le monsieur qui a inventé la guitare électrique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'était un sacré inventeur, un sacré visionnaire. Et effectivement, oui, là, pour le coup, je vous l'accorde, cette archive n'a pas besoin d'être commentée ou entourée. Voilà.
D'ailleurs, même sans les images, on comprend la démonstration de l'enregistrement multipiste par Les Paul et sa partenaire chanteuse à la télévision américaine.
Les Paul a non seulement conçu des guitares au son inédit, mais il a pressenti l'importance qu'allait prendre le studio d'enregistrement. Il a inventé le multipiste et ça a tout changé.
Somewhere there's heaven, high, high the moon.
Well, how long can this go on without getting awful confused in your head?
It's pretty confused.
Being cued by your husband.
Well, would you like to hear the third part?
Yes.
Somewhere there's music, how things are. Somewhere there's heaven, high, high the moon.
Les Paul produisait des sons que personne n'avait jamais entendus. Je me souviens, ma mère disait « N'écoute pas cette musique, c'est une tromperie. C'est un type qui nous roule. » Je me suis dit « Ça, c'est une musique pour moi. » Parce que ça me permettait de me rebeller. Et ce son, je l'adorais. Pour moi, c'est insurpassable. Encore aujourd'hui, le son de ces disques est terriblement excitant.
Encore une archive épatante à découvrir dans Soundbreaking, la série documentaire imaginée par Maro Tchermaïev et Romain Pierry, notre invité dans l'épopée. Ce que nous venons d'entendre, commenté par Jeff Beck, est extrait du deuxième volet de votre saga, mais nous pourrions aussi évoquer les chapitres suivants avec Sly Stone dans son home studio pour le film consacré à la profession de producteur, ou Bonnie Raitt qui s'extasie devant la voix de Bessie Smith dans le quatrième épisode de Soundbreaking. Précisons que cette série documentaire ne se limite pas à la culture noire, même si elle sous-tend votre récit. On découvre aussi le travail des Beatles en studio, des Beach Boys, de Pink Floyd, etc. etc. Je reviens cependant sur l'épopée des musiques noires, qui est comptée en filigrane dans votre collection, et notamment l'aspect sociologique d'un titre comme Hound Dog, qui vous permet d'évoquer les Race Records. Est-ce que vous pouvez essayer de nous rappeler l'enjeu social du 45 tours et du 33 tours dans l'Amérique noire des années 50 ?
C'est le début du fabuleux destin du 45 tours. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en 53, Big Mama Thornton livre une première interprétation d'une chanson écrite par deux blancs, mais qui sont, je crois qu'on peut le dire, noirs à l'intérieur, je pense. Donc Mike Stoller et Jerry Leiber, les deux auteurs-compositeurs légendaires du rock. Je pense qu'on n'aurait pas assez de la journée pour citer les tubes qu'ils ont écrits. Et donc, ils composent Hound Dog à la demande du producteur de Big Mama Thornton. Elle enregistre ça, ça se vend très bien. Mais il se passe quelque chose quelques années plus tard, c'est que un certain Elvis Presley enregistre à son tour la chanson, et là son 45 tours à lui se vend à plus de 10 millions d'exemplaires, je crois, ce qui est le point de départ du succès de ce format-là en particulier, qui est destiné principalement à la jeunesse américaine. C'est le format de la jeunesse, par opposition au 33 tours qui lui est plutôt le format des adultes. C'est-à-dire que Elvis arrive au bon moment, au bon endroit, mais c'est surtout celui qui rend acceptable la musique noire, qui était jugée bien sûr subversive par la majorité blanche, mais parce qu'un blanc la chante, elle devient tout d'un coup acceptable. On est au milieu des années 50, donc on est au cœur du mouvement pour les droits civiques, etc. Donc on est vraiment au cœur du sujet, du concept de Soundbreaking, c'est-à-dire qu'on, il y a, parce qu'un nouveau format est disponible, qui a été créé seulement quelques années avant, à la fin des années 40, parce que ce nouvel objet existe, ça a des conséquences non seulement esthétiques, mais surtout, en l'occurrence, sociologiques, politiques, considérables. Tout d'un coup, il devient très cool, très in pour la jeunesse blanche de l'époque, d'acheter de la musique noire, d'écouter de la musique noire, de s'habiller comme les musiciens noirs, etc., etc., de danser comme les noir. C'est pas un scoop, je pense que les auditeurs de l'émission vont pas découvrir que le rock'n'roll de toute façon est noir. Il s'appelle Rhythm and Blues, mais c'est du rock'n'roll. Déjà, c'est du rock'n'roll. La soul sera la bande originale du mouvement pour les droits civiques. On est aussi beaucoup là-dedans. Il fallait pas qu'on soit dans cet aspect-là en permanence, puisqu'il y a beaucoup de films qui sont consacrés à cet aspect-là, à cette histoire-là. Nous, on est, encore une fois, il fallait partir du point de vue de la technique, de la technologie, mais ça se recoupe évidemment, nécessairement.
En tout cas, l'histoire de Big Mama Thornton nous rappelle que l'adaptation d'œuvres préexistantes n'est pas nouvelle. Elvis Presley, vous le disiez, lui-même s'était permis de reprendre Hound Dog, enregistré 4 ans avant lui, en 1952, par Big Mama Thornton.
C'est chez Johnny Otis que j'ai rencontré Big Mama Thornton. Elle était plutôt intimidante.
Le producteur Johnny Otis nous a appelés. J'enregistre avec elle et j'ai besoin de chansons, alors vous feriez mieux de répliquer. Je crois qu'on a mis 10 minutes pour écrire Hound Dog.
Je dis à Mike, tu sais, je suis pas content de cette chanson. T'es rien d'autre qu'un chien de chasse, ça en voit pas assez. Je préfère un truc vraiment scabreux, genre espèce d'en... Enfin, tu vois. Je lui ai dit non, ça passera pas à la radio. Fallait que Big Mama s'intéresse à la chanson. Elle m'arrache le papier des mains. C'est quoi ça ? Je dis, c'est la chanson. C'est la chanson. Je réponds, ouais.
You ain't nothing but a hound dog.
Je me souviens, Jerry lui a dit, non, c'est pas ça, Big Mama.
Elle me fait, petit blanc, ne me dis pas comment chanter le blues.
You ain't nothing but a hound dog. Told me you
Dog, la version originale de 1952 immortalisée par Big Mama Thornton et commentée par les auteurs et compositeurs américains Lieber and Stoller dans le sixième volet de la série Soundbreaking, que vous pouvez désormais vous procurer en DVD grâce aux efforts de Romain Pierry et Marie Drogue, productrice de cette collection de six films indispensables distribués par Fremantle et coédité par Arte, Higher Ground et Ma Drogue à moi, qui est donc la société de production de votre partenaire Marie Drogue.
Tout à fait.
Merci Romain Pierry de votre engagement pour le patrimoine sonore.
Merci à vous. Merci de votre accueil.
La semaine prochaine, nous continuerons à dépoussiérer quelques archives historiques puisque nous célébrerons le centenaire de l'immense Ella Fitzgerald en écoutant, grâce à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, une série de prestations inédites captées au fil des décennies sur les scènes du monde entier. Vous connaissez ça par cœur, j'imagine, Romain Pierry. Allez faire appel à l'INA. C'est quelque chose que vous avez dû faire pour Soundbreaking.
Oui, tout à fait.
Nathalie Laporte, réalisatrice de cette émission, est déjà plongée dans ses trésors musicaux. Quelques concerts à noter cette semaine si vous êtes parisien. D'abord Bob Dylan, le 20 avril au Zénith de Paris et le 21 à la scène musicale, la grande nouvelle scène de l'île Séguin à Boulogne-Billancourt près de Paris qui sera inaugurée à cette occasion. Notez également les prestations de Natalia M. King vendredi et samedi prochain au Duc des Lombards. Pour les amateurs de musique brésilienne, matinée de jazz, je vous recommande Vinilé. Un trio emmené par le chanteur et guitariste Léo Crous. Ça se passera aux Zèbres de Belleville le 20 avril, donc jeudi, la veille de la parution de leur album fort recommandable intitulé De Todo Lado. Et enfin, n'oubliez pas Monty Alexander à la Philharmonie de Paris dimanche 23 avril dans le cadre de l'exposition Jamaïca. Jamaïca, on en reparlera. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.